Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce psaume, ce très beau psaume, fait partie d'un groupe de psaumes appelés Cantiques des degrés ou Cantiques de l'Ascension ou encore Chant de piétonnade. C'est ainsi que l'on nommait en hébreu les voyages que nous appelons aujourd'hui des pèlerinages. Et l'une des interprétations données, c'est que ce psaume était chanté par des pèlerins israélites qui se rendaient à Jérusalem, donc à la ville sainte, pour adorer Dieu, et ce, notamment, à l'occasion des trois principales fêtes juives, Pâques, Pentecôte et fête des cabanes. Les pèlerins qui venaient de toutes les parties de la Palestine, et même d'ailleurs, il y a une bonne illustration de ce qui se passait à ce moment-là à Jérusalem, nous la trouvons dans Actes chapitre 2, où Luc nous dit qu'il y avait, pour la fête de la Pentecôte, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des gens venus de la Mésopotamie, de Judée, de la Cappadoce, du Pont, d'Asie, etc., etc. Ces pèlerins venaient donc souvent de très loin et séjournaient dans la ville sainte pendant ces jours de fête. Puis ils s'en retournaient chez eux, enrichis de tout ce qu'ils avaient reçu à Jérusalem pendant ces fêtes, avec des connaissances et des ferveurs nouvelles. Et on peut rappeler ici les paroles du prophète Ésaïe qui disait « Vous entonnerez des cantiques, vous aurez l'allégresse au cœur, comme celui qui monte au son de la flûte à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. » Alors ce psaume commence par une question. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Suivi immédiatement par une réponse. Et la réponse qui est là, c'est la réponse de la foi. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, dès le départ, le psalmiste exprime beaucoup de confiance en Dieu. Et le psalmiste précise de quel Dieu il s'agit. Il ne s'agit pas des dieux faits par des mains d'hommes, les idoles, mais il s'agit de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Il place donc l'accent sur le Dieu créateur, le Tout-Puissant, comme étant le meilleur secours, un gardien sans faille, celui qui mérite toute notre confiance pleine et entière. Et cette question, d'où me viendra le secours, a sa raison d'être. À l'époque, on sait que les pèlerins devaient faire face à beaucoup de dangers, à des dangers de toutes sortes lorsqu'ils quittaient leur maison pour se rendre à Jérusalem. Ils devaient effectuer de longues marches à pied dans des contrées qu'on sait arides, n'est-ce pas, sous une chaleur qui n'était pas toujours propice au voyage, la chaleur torride de la Palestine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le psalmiste parle du soleil et de la lune, au verset 6, quand il dit « Le soleil ne te frappera point le jour, ni la lune la nuit. » Autrement dit, Dieu te protégera, quoi qu'il arrive, contre tous les dangers. Que ces dangers proviennent du ciel ou de la terre, tu seras protégé, l'Éternel te protégera. C'est pour cela qu'il donne aussi l'image de l'ombre, au verset 5, « L'Éternel est ton ombre, Il te protégera, Sans doute, pour ces voyageurs, le plus grand danger, c'était la chaleur. Ils devaient faire face à la soif, à la fatigue de la marche, très probablement aussi aux blessures, car quand on marche beaucoup à pied, on a souvent des ampoules aux pieds, n'est-ce pas ? Des ampoules qui peuvent même s'infecter à cause de la poussière, de la sueur, etc. Un autre danger auquel ils devaient faire face, c'était les attaques des pillards. Et apparemment, à cette époque, c'était chose courante sur les routes, des attaques qui n'étaient pas rares, car les voleurs savaient que les pèlerins partaient à Jérusalem avec un peu d'argent, peut-être même beaucoup d'argent dans la poche. Ils amenaient sans doute de l'argent pour faire face aux dépenses dans la ville sainte, peut-être pour s'acheter même certaines choses avant de retourner chez eux. Et puis après, ces pèlerins devaient faire face le chemin inverse, de retour à leur maison, et rencontrer exactement les mêmes problèmes sur la route, avec peut-être un peu moins d'argent en poche, mais peut-être avec un peu plus de bagages. Donc la question « d'où me viendra le secours ?» était une question importante pour eux, une question fondée, car ils étaient conscients des dangers encourus lors de ce voyage. Et je dirais que la vraie question est donc « d'où me viendra le secours ?» sous-entendu pour que j'arrive sain et sauf à la destination. Or, cette question est aussi importante pour chacun de nous, je pense, en début de cette nouvelle année. Notre vie, la vie du croyant, peut être comparée à un pèlerinage sur cette terre. D'ailleurs, dès les premières pages, la Bible présente les croyants comme vivant en situation d'étrangers et de voyageurs sur la terre. Nous sommes donc non pas des autochtones, mais des allochtones. N'est-ce pas, des allochtones? Nous sommes tous en pèlerinage sur cette terre et en tant que pèlerins, ne connaissant pas l'avenir, ne sachant pas de quoi il sera fait, ne sachant pas ce qui nous attend demain, comme nous dit Jacques, n'est-ce pas, nous avons nous aussi besoin d'être secourus. Nous aurons besoin d'être secourus dans pas mal de situations que nous allons vivre cette année, car nous savons que nous devons faire face à des difficultés qui font tout simplement partie de la vie normale de tout le monde. Nous savons bien, même la vie chrétienne n'échappe pas à ces difficultés. Ça peut être un problème conjugal, quand mon couple risque le naufrage. Ça peut être un problème lié à l'éducation de mes enfants, lorsque l'un d'eux tourne mal et me donne des cauchemars. Ça peut être la perte de mon emploi. En ces temps de crise, ça arrive souvent pour beaucoup de personnes. Ça peut être ma santé qui soudainement se détériore et que je risque la mort. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être beaucoup de choses difficiles qui nous tombent et qui nous tomberont dessus et qui nous laisseront peut-être parfois désemparés sans savoir quoi faire. Et c'est là que notre cri sera peut-être identique à celui du psalmiste. D'où me viendra le secours? Si la réponse du psalmiste a été immédiate, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Hélas, la nôtre n'est pas toujours celle-là. La nôtre n'est pas toujours cette réponse de la foi. Car nous avons souvent tendance à ne pas tourner les yeux vers le haut, vers le Seigneur, mais vers le bas. Nous avons souvent tendance à tourner nos yeux vers ce qui ne nous apporte pas de solution au vrai problème de la vie, ce qui ne peut pas nous apporter le secours. Nous tournons nos regards vers le bas au lieu de les tourner vers le haut. Nous tournons nos regards vers ce qui ne peut pas nous sauver. Ou pour citer le prophète Jérémie, nous avons souvent tendance à creuser des citernes, je cite, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et nous abandonnons Dieu qui est la source d'eau vive. Les gens du monde se tournent souvent vers toutes sortes de choses, et cherchent le secours là où il n'est pas. L'autre jour, je prenais une petite ruelle quelque part en ville, et il y avait un petit bureau de voyance ouvert au public, avec une vitrine qui montrait ce qui se passait à l'intérieur. Et il y avait justement un homme assis devant une voyante, une cartomancienne, je ne sais pas comment on le dit. Et sans doute que cette dame était en train de lui dire des choses sur son avenir, n'est-ce pas? Soit des généralités qui peuvent correspondre à la vie de n'importe qui, soit des mensonges, ce qui est encore plus grave, n'est-ce pas? Et sans doute que cet homme a payé cher pour écouter, pour entendre ces choses-là. Sans doute que cet homme avait des soucis dans sa vie. Il avait des problèmes, il avait des questions à poser. Et il voulait connaître l'avenir. Et on sait, les médias nous disent que ce commerce-là est très florissant. Les gens dépensent des fortunes pour savoir comment agir, comment décider face à telle et telle situation. Ils veulent connaître leur avenir. Or, la parole de Dieu nous interdit ces choses-là. La parole de Dieu condamne cela et affirme que cela constitue une abomination aux yeux de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 18, nous lisons qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. S'il y a des personnes ici qui ont joué avec ces choses, elles peuvent bien sûr encore se tourner vers le Seigneur et demander pardon au Seigneur pour cela. Quand on s'adonne aux sciences occultes, on se met en danger, car ces choses-là viennent du diable, l'ennemi de Dieu. Toucher au monde occulte, c'est toucher au monde des démons. C'est chercher le secours dans les puissances démoniaques. C'est chercher le secours auprès de Satan. Et cela est sévèrement condamné par la parole de Dieu. Le problème pour nous les chrétiens, peut-être ce n'est pas là, n'est-ce pas ? Ne se trouve pas dans la voyance, dans l'horoscope, dans ces choses-là. Le problème pour nous les chrétiens, c'est peut-être que souvent nous voulons nous débrouiller tout seuls, n'est-ce pas ? Par nos propres moyens, par nos propres forces, sans le soutien de Dieu. Le problème pour nous, c'est que souvent nous pensons être assez intelligents, n'est-ce pas, pour pouvoir trouver des solutions tout seuls à nos problèmes. D'ailleurs, nous avons dans la Bible pas mal d'exemples de croyants qui ont eu cette même tendance, je dirais fâcheuse, n'est-ce pas, à ne faire qu'à leur tête, à décider par eux-mêmes. C'est le cas du patriarche Abraham, par exemple, cet homme qui a vu les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Cet homme qui a fait confiance au Seigneur, lorsque Dieu lui a dit quitter son pays, sa patrie, la patrie de son père et de sa mère, et de se diriger vers la terre promise, la terre de Canaan, il a obéi, il a fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur l'a guidé, le Seigneur l'a conduit à surmonter toutes les difficultés du trajet qu'il a effectué. Mais quelque temps plus tard, lorsqu'il y a eu une famine en Canaan, qu'est-ce qu'Abraham a fait ? Il décide de se rendre en Égypte sans consulter Dieu. C'est de sa propre initiative qu'il part. Et alors qu'il arrive en Égypte, c'est là qu'il commence à se rendre compte que peut-être il a fait une bêtise. Il se rend compte que son épouse Sarah est très belle, trop belle, et que peut-être Pharaon va le tuer, lui, pour prendre son épouse. Et là, il ne sait pas quoi faire. Alors il trouve une solution, il va dire à sa femme, tu vas mentir, tu vas dire que tu es ma sœur, que tu n'es pas ma femme. Et finalement, quelle honte, c'est Pharaon, l'incroyant, qui va dire à Abraham, le croyant, qu'il avait fait une bêtise, n'est-ce pas ? Quelle honte pour ce croyant d'avoir été repris par un incroyant. En fait, c'était la peur qui a fait... qu'Abraham a décidé de mentir et de pousser sa femme au mensonge. La peur fait commettre des erreurs à n'importe qui et à nous aussi. S'il avait consulté Dieu avant de partir, n'est-ce pas ? S'il avait cherché à connaître la volonté de Dieu dans cette situation difficile qui était la famine, peut-être que Dieu l'aurait poussé à agir autrement. Peut-être que si Dieu l'avait envoyé en Égypte, il aurait parti sans crainte en faisant toute confiance au Seigneur. Croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, c'est une erreur. Exclure Dieu de certains domaines de notre vie, c'est une erreur aussi qui nous met souvent en danger. Et on sait qu'une erreur entraîne une autre erreur et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Il y a cette expression latine qui dit « abyss ou jabis ou invocat ». Un abîme entraîne un autre abîme. D'ailleurs, c'est une expression qu'on trouve au psaume 42, verset 7. Une faute entraîne une autre faute. Et ainsi de suite, pour justifier une faute, on va commettre une faute. Pour justifier un mensonge, on va mentir à nouveau. Et Abraham, le père de la foi, est tombé dans ce travers. S'il est tombé dans ce travers, lui, le père de la foi, à combien plus forte raison nous devons être sur nos gardes, n'est-ce pas ? Nous devons être sur nos gardes, car nous aussi, nous risquons de faire exactement la même chose lorsque nous nous trouvons dans des situations difficile, nous oublions Dieu, nous oublions de mettre Dieu à la première place de nos vies, de nos décisions. Et si nous oublions de chercher le Seigneur, nous allons trouver où la solution à nos problèmes? Une chose est sûre, quand on écarte Dieu, on finit par chercher le secours ailleurs, même dans le mensonge ou en toutes sortes d'artifices qu'on va trouver. Abraham a péché, et pourtant la parole de Dieu nous dit qu'il a été appelé le père des croyants. C'est qu'au fil du temps, avec sa marche avec Dieu, il a appris finalement à mettre toute sa confiance en Dieu. Et le jour où le test suprême est arrivé, celui où Dieu lui a demandé d'offrir en holocauste son fils unique, Isaac, Abraham a obéi. Il a obéi. Et ce n'est que quand Isaac est lié sur l'autel et qu'Abraham a le couteau sur la main, n'est-ce pas, que Dieu intervient et lui dit « Arrête, Abraham, arrête, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais pas de mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Un autre exemple qu'on pourrait citer, c'est David, cet homme qui avait le cœur de Dieu, n'est-ce pas, le cœur selon Dieu. Comme on le sait, il a été sévèrement pourchassé par le roi Saül. À au moins deux reprises, avant qu'il ne devienne roi, David doit se réfugier quelque part. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se réfugier chez les ennemis d'Israël, chez les ennemis de son propre peuple, les Philistins. La première fois, c'est à Gath, auprès du roi Achish. Et la deuxième fois, il va se mettre au service encore du Philistin. Et il va se mettre à leur service comme un mercenaire, comme un mercenaire à la solde des Philistins. À une autre occasion, alors qu'il est poursuivi par Saül, il se rend chez le sacrificateur Achimélec, et là, il va lui aussi mentir. Il va carrément mentir à cet homme. Achimélec sait bien que David n'est pas tout seul, mais il lui pose la question, il demande des nouvelles des autres. Et David va lui dire, écoute, le roi m'a envoyé en mission spéciale, je vais venir tout seul, les autres vont venir me rejoindre plus tard. Il est en train de mentir. Combien de fois cela nous arrive à nous aussi, n'est-ce pas? Combien de fois cela nous arrive à nous aussi? Au lieu de chercher le secours auprès du Seigneur, nous allons le chercher en nous-mêmes, en cherchant à réfléchir tout seul, avec notre sagesse, notre intelligence, et nous excluons Dieu de nos projets et de nos décisions. Quand tout se passe bien, nous sommes capables de chanter « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Mais quand les choses se gâtent, n'est-ce pas, quand les choses deviennent difficiles, nous mettons parfois le Seigneur de côté et nous cherchons le secours parfois, même dans le mensonge. Nous savons tous que le péché est quelque chose de grave, et la Bible le dit. C'est à cause du péché que le Christ est mort sur la croix. Mais je dirais que ce qu'il y a de plus grave encore, c'est de refuser de se repentir. Et David, qu'on vient de citer, était un homme capable de se repentir. D'ailleurs, nous avons de très beaux psaumes, et notamment le psaume 51, n'est-ce pas, que c'est un psaume de repentance formidable que nous pouvons nous approprier aussi à nos vies. Heureusement, nous savons que David a progressé lui aussi dans le chemin de la sanctification, au point de devenir, comme je disais tout à l'heure, un homme selon le cœur de Dieu, au point d'écrire des psaumes magnifiques qu'on trouve dans le psautier, n'est-ce pas? Des psaumes qui affirment toute sa confiance dans le Seigneur. Dimanche dernier, on lisait ce psaume 23, où il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et au psaume 27, verset 3, il dit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et beaucoup d'autres psaumes qui peuvent nous encourager à vivre nous aussi dans la confiance. En début d'année, nous sommes peut-être en train de nous poser la même question. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? La force de continuer à vivre en chrétien dans un monde hostile, n'est-ce pas? D'où me viendra le courage pour rester ferme dans la foi et fidèle à l'Évangile, fidèle au Seigneur, alors que tout le monde autour de moi, peut-être même dans ma famille, mes collègues, etc., sont plutôt moqueurs, peut-être même méchants vis-à-vis de moi, en sachant que je suis chrétien. D'où me viendra le secours pour continuer à être un témoin du Seigneur dans des circonstances parfois difficiles, contraires, compliquées? D'où me viendra l'aide dont j'ai besoin dans la situation difficile qui est la mienne aujourd'hui, avec des difficultés très pénibles par lesquelles je passe aujourd'hui? D'où me viendra le secours, le soutien, alors que j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi? D'où me viendra la victoire, peut-être aussi sur le péché? D'où me viendra la force pour résister à la tentation? D'où me viendra la force pour tenir dans l'épreuve? Peut-être d'où me viendra aussi le secours pour trouver la nourriture de chaque jour, le vêtement? Et on pourrait allonger la liste indéfiniment selon les besoins des uns et des autres. La réponse est là dans ce psaume. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne peut venir que du Dieu créateur, de celui qui nous a créés, de celui qui nous connaît parfaitement, parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, de celui qui nous a créés, qui veut prendre soin de nous chaque jour. Il ne permettra pas que mon pied chancelle, alors je peux marcher avec assurance. Il s'occupe de ma marche, de mon chemin. Il me garde en permanence le jour comme la nuit, car il ne dort pas, il prend soin de moi. Je peux alors, moi, dormir tranquille, en paix, sans inquiétude, puisqu'il est là tout le temps. L'Éternel est celui qui te garde. Il est l'ombre qui te protège. Avec lui, le soleil de l'épreuve n'a pas le pouvoir de me brûler, de m'arrêter dans ma marche. Il me garde de tout mal, et non pas simplement d'une partie du mal, mais de tout mal qui pourrait me survenir. Nous avons, frères et sœurs, un Dieu qui nous suit, un Dieu qui nous accompagne et qui est avec nous, même quand on ne se rend pas compte. Et cela nous arrive, n'est-ce pas, de nous demander où est Dieu dans telle ou telle situation. Il était là au début de notre vie chrétienne, au moment de notre engagement avec lui, et même avant. Il sera présent au jour de notre dernier souffle pour nous recueillir auprès de lui dans sa gloire éternelle. Mais entre les deux, il est là. Même si nous ne voyons pas, même si nous ne sentons pas sa présence, il est là avec nous. Et donc, puisque le Seigneur est là, lorsque nous traversons la vie ici-bas, ce temps souvent d'épreuves et de difficultés, nous pouvons nous rappeler que le regard en haut est le regard qui compte. Ne regardons pas en bas, regardons en haut, parce que c'est lui, c'est ce regard-là qui va nous faire du bien tout au long de cette année. Le psalmiste dit aussi que le Seigneur garde aussi notre âme, pas simplement notre corps, pas simplement nos pieds, nos têtes, mais aussi notre âme. Il garde le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments, de notre vie psychologique. Il garde notre personne, il garde notre vie spirituelle. Bref, il garde notre vie tout entière, notre corps, mais aussi notre vie intérieure. Notre vie intérieure lui est précieuse et compte beaucoup pour lui. Il veut aussi garder ce domaine-là de notre vie. Le Seigneur Jésus disait que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, n'est-ce pas? L'âme est quelque chose de très précieux pour le Seigneur. En ce début d'année, on entend souvent des souhaits, beaucoup de souhaits, des souhaits de bonne santé, de réussite professionnelle, familiale et tout ce qu'on veut. Et c'est très bien. Il faut d'ailleurs remercier le Seigneur pour toutes ces bonnes choses qu'il nous accorde. Mais je pense que souvent on oublie l'essentiel, l'état de notre âme. Si toutes ces choses sont précieuses, je crois qu'il est très important de penser à l'état de notre âme, à la bonne santé de notre âme. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup ces vœux que Jean fait à Gaius en écrivant sa troisième lettre lorsqu'il dit ceci. Bien-aimé, je te souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur promet ici, par ce psaume, de garder aussi notre âme, car elle est très précieuse à ses yeux. Or, tout ce que nous venons de dire, frères et sœurs, ne signifie pas que la vie du chrétien est rose dans ce monde, n'est-ce pas? Nous le savons bien que ce n'est pas vrai. La vie n'est pas rose pour tout le monde. Ce n'est pas une assurance tout risque que nous avons ici dans la parole de Dieu. C'est simplement la promesse de la présence divine en toutes les circonstances de notre vie, même les plus pénibles. Le Seigneur a promis qu'il ne nous abandonnera jamais et que rien ni personne ne pourra jamais nous ravir de sa main. Alors, puissions-nous aujourd'hui, en méditant ce psaume, décider de lever nos yeux vers le Seigneur à partir d'aujourd'hui, car c'est de lui seul qui nous vient le secours. C'est de lui seul qui nous vient l'aide et le soutien et la force dont nous avons besoin pour continuer notre marche ici-bas. Encourageons-nous les uns et les autres tout au long de cette année à ne pas baisser la tête, à tenir nos regards tournés vers le haut, vers Dieu, et non pas vers les solutions humaines. Encourageons-nous à ne pas vouloir nous débrouiller tout seuls, avec nos seules forces, avec nos seuls moyens, car cela mènera à l'échec. Le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire de bon. Il est le seul qui peut nous garder, il est le seul qui peut nous sauver, il est le seul qui peut nous secourir. Avez-vous remarqué combien de fois le psalmiste utilise dans ce psaume le verbe « garder » sur les 8 versets, nous retrouvons ce mot à 6 reprises. « Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » 6 fois, en 8 versets, il utilise ce verbe 6 fois. Ce psaume chante donc que contre le mal extérieur et contre le mal intérieur, dans l'espace et dans le temps, le Seigneur veille, le Seigneur protège, le Seigneur garde la créature qui met en lui sa confiance. Que le Seigneur nous fasse grandir en confiance et que les paroles de ce psaume puisse réchauffer notre cœur à partir d'aujourd'hui et nous donner du baume, de la joie, de la force pour poursuivre notre route avec lui tout au long de cette année. Que le Seigneur bénisse sa parole.